Bienvenue dans Science Num, le podcast qui décortique les recherches menées à Télécom Sud Paris dans le numérique. Aujourd'hui, mon invité est Hervé Debar. Il est directeur de la recherche à Télécom Sud Paris. Il est aussi directeur adjoint de l'école, expert reconnu en cybersécurité, domaine dans lequel il travaille depuis plus de 30 ans, et il est aussi membre du conseil scientifique de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Hervé Debar, bonjour.
Bonjour.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un ensemble de travaux menés au niveau européen dans un programme que vous pilotez au sein d'un projet qui s'appelle Sparta. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce projet ?
Donc, ce projet Sparta, c'est un projet européen dans un cadre assez classique qui a pour but pour la Commission européenne de développer une action stratégique dans le domaine de la cybersécurité. Et plus spécifiquement, l'Europe veut mettre en place un centre de compétences européen en cybersécurité qui sera, maintenant on le sait, localisé à Budapest. L'objectif de Sparta, c'est un projet pilote, comme trois autres, hein, Concordia, ECHO et CyberSec for Europe, qui ont pour but d'étudier différents modes de fonctionnement pour construire ce centre de compétences et faire en sorte qu'il soit le plus opérationnel possible.
Ok, alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce projet Sparta ?
Alors, au sein du projet Sparta, il y a différentes activités, dont une activité de recherche qui est sous forme de quatre programmes. Un des programmes s'intéresse à ce qu'on appelle la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire comprendre d'où viennent les attaques et qui sont les attaquants. Un programme s'intéresse à la sécurité des objets matériels, notamment les objets connectés, les petites plateformes, on va dire. Un troisième programme s'intéresse à la sécurité de l'intelligence artificielle, qui est un sujet très à la mode, hein, puisqu'on va piloter plus de systèmes par ces mécanismes d'IA. Et le programme dont je m'occupe s'intéresse aux problématiques de validation et de certification, c'est-à-dire au fait de reconnaître, de savoir démontrer qu'un logiciel ou qu'un système composé de logiciels et d'autres équipements peut remplir les missions qu'il est censé remplir. Dans le cadre de ce programme, hein, et pour étudier ces missions, on va regarder deux cas d'usage particuliers. Le premier cas d'usage est lié au secteur du transport et consiste à l'étude du véhicule connecté, notamment des véhicules qui fonctionnent en formation, donc qui se suivent les uns les autres. Le deuxième cas d'usage s'intéresse à la sécurité de l'identité numérique dans le cadre d'une application qui est déployée par le gouvernement italien pour fournir une identité numérique et des services en ligne à ses citoyens.
Si je comprends bien, votre mission est d'éviter qu'un logiciel soit sujet à des vulnérabilités.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par vulnérabilité et quelles peuvent être les conséquences ?
Alors, les vulnérabilités, on peut en gros les classer en trois grandes familles. On a d'abord des vulnérabilités de conception qui touchent des protocoles ou des choses assez fondamentales, souvent des choses qu'on a conçues il y a bien des années, hein, puisque les premiers mécanismes de l'Internet, ils ont été conçus dans les années 80-90. Et dans ces années-là, on se souciait plus de faire fonctionner les choses que de leur sécurité. Et donc, on a dû faire face à un ensemble de failles dans des protocoles fondamentaux de l'Internet qui dataient vraiment de la manière dont ils étaient conçus. On est globalement un petit peu sorti de cette phase-là et on trouve aujourd'hui essentiellement des vulnérabilités dans le développement logiciel, donc des erreurs de programmation, hein, dans différents langages, et puis des erreurs dans l'opérationnel, c'est-à-dire dans la manière dont on configure les logiciels et les services pour qu'ils rendent des fonctions à leurs utilisateurs. Et en fait, on s'aperçoit que dans la modification du monde informatique qui va de plus en plus vers ce qu'on appelle le DevOps, c'est-à-dire en même temps développer et déployer de nouvelles fonctionnalités, eh bien les vulnérabilités dans le cycle de développement et les vulnérabilités de configuration se mélangent un petit peu et on a globalement des systèmes qui peuvent présenter des failles qui permettent à des attaquants de les compromettre, c'est-à-dire d'aller tout simplement soit bloquer le service, soit aller lire des informations auxquelles ils n'ont pas droit, ou finalement renvoyer des informations fausses ou erronées aux utilisateurs légitimes.
Vous travaillez sur deux cas d'usage, notamment la sécurité de l'identité numérique pour le gouvernement italien. C'est compliqué à mettre en place ?
Effectivement, on s'aperçoit qu'on a des systèmes logiciels qui sont de plus en plus complexes par le nombre de plateformes sur lesquelles ils sont déployés, le nombre de systèmes d'exploitation, le nombre de composants interconnectés, le nombre de briques diverses et variées qui s'imbriquent les unes dans les autres pour remplir un service. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du cas d'usage italien, on a une application sur smartphone qui fonctionne soit sur Android, soit sur iOS, donc des langages différents, des systèmes d'exploitation différents, qui communiquent avec un serveur d'identité qui, en l'occurrence, l'occurrence est basé sur un système open source qui s'appelle Shibboleth, qui permet de faire ce qu'on appelle du single sign-on, c'est-à-dire de l'authentification unique, qui derrière sert de relais vers toutes sortes de services fournis par l'État ou des entreprises privées. En France, on a à peu près l'équivalent, ça s'appelle France Connect, et on a du coup les services des impôts, de la sécurité sociale, du ministère de l'Intérieur pour les cartes grises, et éventuellement on pourrait avoir des fournisseurs de services privés. Donc cet ensemble-là, il est très complexe, on s'aperçoit qu'on a plusieurs langages, plusieurs systèmes d'exploitation, des flux, des interconnexions entre différents services qui sont également parfois complexes à modéliser.
On entend que c'est complexe, est-ce qu'il y a d'autres problématiques que vous devez prendre en compte ?
On a également une dépendance à tout un écosystème qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse entreprise qui développe du logiciel, quelle qu'elle soit, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, va utiliser un grand nombre de briques et de librairies qui sont souvent disponibles comme sous forme de logiciels libres. Alors tout le monde connaît Linux, tout le monde connaît les serveurs Apache, tout le monde connaît un certain nombre de navigateurs comme Chrome ou Firefox qui sont disponibles gratuitement et sous forme de logiciels libres. Ces logiciels, ces librairies, eh bien, ils ne sont pas maîtrisés par le développeur du logiciel ou du service final qui, cependant, est responsable de son bon fonctionnement. Et par conséquent, on a besoin de gérer des vulnérabilités dans l'ensemble de cet écosystème logiciel, y compris pour des composants qui ne sont pas dans notre domaine de responsabilité, ce qui implique une très grande complexité dans le fait de comprendre et de gérer ces vulnérabilités.
C'est quoi alors la finalité de ce projet de recherche ?
L'objectif, c'est de systématiser la validation du logiciel pour s'assurer qu'on a le moins de vulnérabilités possible lorsqu'on le met en fonctionnement. C'est suffisamment compliqué pour qu'on ait besoin d'outils, et le but du programme, c'est de développer des outils qui peuvent attaquer l'ensemble de la chaîne de développement logiciel pour aller depuis la conception jusqu'au déploiement.
Hervé Debarre, quelle est l'originalité de vos travaux ?
C'est déjà d'adresser l'ensemble de la chaîne logicielle. Je ne connais pas de système qui puisse aller regarder tout ce qui se fait tout au long du cycle de vie du logiciel. Le deuxième intérêt, c'est l'hétérogénéité des technologies qui oblige à avoir des outils spécifiques mais complémentaires pour traiter des vulnérabilités qui peuvent se présenter dans différents composants logiciels. Et puis, au final, l'idée, c'est d'aider à l'analyse de risque en donnant aux développeurs et à l'opérateur des informations pour remédier à ces risques. C'est-à-dire que si on lui dit simplement « il y a un problème », mais on lui explique pas ce qu'est le problème et qu'est-ce qu'il peut faire pour y remédier, au final, l'information qu'il reçoit est assez inutile. Ça amène même à une certaine fatigue de l'information. Et donc, il est nécessaire que nos outils lui donnent des pistes pour résoudre les problèmes qui ont été identifiés.
Le projet européen, c'est un travail commun entre des chercheurs du public et le monde de l'entreprise. Mais quel est l'apport de ces entreprises dans le projet ?
Alors, il y a plusieurs entreprises qui sont impliquées dans le programme. Je vais vous en citer deux. La première, c'est un grand fournisseur de logiciels qui s'appelle SAP, une entreprise d'origine allemande qui vend ses logiciels à peu près sur toute la planète. SAP se positionne à la fois comme un fournisseur de technologie, c'est-à-dire qu'il développe des outils et il participe à l'intégration de leurs outils dans la chaîne de développement logiciel, de validation du logiciel que nous développons. Et il se pose également comme utilisateur de cette chaîne logicielle. Donc, ils utilisent des technologies fournies par notamment des académiques, pour améliorer la production de leur logiciel. Une deuxième entreprise s'appelle Leonardo, c'est une entreprise italienne. C'est un petit peu l'équivalent de Thales en France. C'est vraiment une très très grosse société qui travaille dans plein de domaines, qui manipule beaucoup de logiciels et qui a notamment une activité de certification de logiciels. C'est-à-dire qu'elle s'engage, elle prouve formellement que le logiciel est capable de remplir les missions qu'il est censé remplir. Et cette société met en œuvre, sur nos deux cas d'usage, ces techniques pour montrer qu'on peut aller plus loin dans la certification du logiciel.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans ce domaine de recherche ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles technologies. Depuis longtemps, j'ai commencé jeune. Et en fait, quand on fait de la sécurité, on est toujours à la pointe de la technologie parce que les gens sont très créatifs, notamment dans la création de nouvelles attaques. C'est un petit peu une tarte à la crème. Mais du coup, il faut aussi être créatif dans la manière dont on va répondre aux attaques et dont on va comprendre le fonctionnement des systèmes. On s'aperçoit aussi qu'on a de plus en plus rapidement besoin d'explorer de nouveaux domaines d'application. Il y a quelques années, je me rappelle, sur un projet pareil européen, on avait été dans la ville de Rome et on traitait les problèmes de cybersécurité sur leur réseau de distribution d'eau. Et on se retrouvait face à des systèmes qui avaient entre 30 et 80 ans. Et autant vous dire que des électrovannes d'il y a 80 ans, elles n'avaient pas vraiment de techniques de cybersécurité applicables. C'était assez compliqué à résoudre, mais c'était très intéressant. Et du coup, on a à la fois un sentiment de curiosité et puis d'utilité. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, ça doit rendre un service et aider au fait que les systèmes fonctionnent mieux, de manière plus sécurisée et donc conserver un certain niveau de confiance dans la manière dont on numérise l'ensemble de nos systèmes aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles difficultés vous rencontrez dans ce domaine de recherche ?
Les plus grandes difficultés, ce n'est pas tellement des problématiques de recherche à ce stade, c'est vraiment des problématiques de personnes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver des gens qui sont intéressés par la cybersécurité pour différentes raisons. On a clairement un manque de compétences et de personnes formées sur le sujet au niveau mondial. Et on parle vraiment de plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, de dizaines de milliers de postes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, un petit peu partout sur la planète. Tous les pays font le même constat et donc mettent en place des stratégies dont ces projets et ce centre de compétences. Et on a vraiment du mal à attirer notamment les jeunes vers ces sujets. Ils sont attirés vers des choses qui semblent plus, je dirais, brillantes, hein, comme l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Ça m'amuse toujours parce que j'ai fait partie de la vague 1990 de l'intelligence artificielle. J'en ai même vendu. Et en fait, j'en suis resté assez sceptique. Je trouve dommage que les jeunes ingénieurs ne s'intéressent pas à ces sujets de cybersécurité, pour deux raisons. D'une part, s'ils font du numérique, ils seront forcément impactés par des problématiques de sécurité, donc ils devraient avoir un vernis minimum. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, au travers du programme type CyberEdu de l'ANSSI. Et puis, il y a clairement besoin de spécialistes, parce que c'est un domaine en pleine évolution et en pleine croissance. C'est pas prêt de s'arrêter.
Et donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes ingénieurs et aussi aux professionnels impactés par l'informatique ?
Sur les jeunes, je pense que c'est un sujet sur lequel, s'ils ont envie de creuser des sujets techniques, alors faut avoir envie de ça, ils auront l'occasion de le faire. C'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup d'aspects humains, notamment être capable de faire les bons arbitrages et d'aller expliquer aux gens quels sont les problèmes et comment on peut y remédier. Et donc cet aspect interaction avec l'autre, entre guillemets vente, il y a vraiment un sujet économique d'analyse de risque pour faire les bons arbitrages et expliquer pourquoi les choix qu'on propose sont les bons. Pour des jeunes ingénieurs, je pense que ça peut être tout à fait exaltant. Il y a également un sujet sur des professionnels plus aguerris qui ont fait carrière dans un métier qui aujourd'hui est impacté par le numérique. Je pense à des gens qui ont travaillé dans le transport, dans l'énergie, dans le traitement des déchets, dans le traitement de l'eau, qui sont aujourd'hui impactés par le numérique et qui pourraient recevoir une formation à la cybersécurité pour justement mieux lutter contre les attaques informatiques qui touchent directement leur domaine d'activité.
Et qu'est-ce que vous leur proposez alors ?
Pour les étudiants, c'est clairement de les former et de les préparer à aller sur un marché du travail qui les attend avec impatience. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse continuer à former au meilleur niveau ces jeunes. En tant que chercheur, moi je pense que dans le passé, j'ai inventé un certain nombre de concepts qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, ce que nous faisons dans le domaine de l'automatisation, de la facilitation, de l'explication, de la lutte contre les attaques, me semble extrêmement important pour continuer à avoir des systèmes dans lesquels on puisse avoir confiance.
Avant de se quitter, un conseil de lecture pour les étudiants et les professionnels qui vous écoutent aujourd'hui ?
Alors, bon, je ne vais pas recommander des lectures scientifiques. Moi, je vais vous recommander quelque chose qui se lit un petit peu comme un roman, qui est un vieux livre qui date de 1989, qui s'appelle « The Cuckoo's Egg ». C'est un livre de Clifford Stoll, à l'origine un astrophysicien qui en fait gérait les systèmes informatiques de l'université de Berkeley. Et il a dû faire face à un hacker, un des premiers hackers qui venait d'Allemagne et qui essayait de pénétrer son système. Et dans son livre, il raconte un petit peu comment il a mis en place toutes sortes de mécanismes pour comprendre ce que cherchait cet attaquant et interagir avec lui. Ça a plus de 30 ans, mais ça reste tout à fait d'actualité pour comprendre les enjeux qui continuent à se jouer en Europe et qu'on voit rejouer avec des attaques très récentes, comme l'attaque SolarWinds, qui a permis à un service secret étatique de pénétrer plusieurs dizaines de sociétés et d'organisations institutionnelles américaines.
Merci Hervé Debarre. J'espère que vous allez susciter des vocations.
Merci à vous.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Science Num, une émission soutenue par le Carnot Télécom et Société Numérique. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Prochain épisode avec Marilyn Laurent. Elle est experte en cybersécurité et protection des données personnelles. Et on parlera de profils bruités. À bientôt !